Bonjour auditrices, auditeurs, artistes et tous ceux qui nous écoutent, c'est l'Actuali sur les ondes du 107. Aujourd'hui, derrière le micro avec moi, Vincent Ganay. Vous le connaissez peut-être de par son talent artistique de peintre ou de par ses photographies. Ayant grandi plongé dans nos forêts, la nature et le fil des saisons sont donc devenus ses principales inspirations. Un art qui vous amène en un simple clin d'œil dans son monde spontané, hors de toute empreinte humaine. Vincent, comment ça va ?
Impeccable, c'est super. Ben, je suis bien content d'être là aujourd'hui. C'est une belle occasion parce que, comme on en parlait tout à l'heure, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de radio.
Ouais.
Donc voilà, donc c'est une belle reprise, quoi. C'est sympathique.
Ouais.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. Comme je l'ai dit, tu es un artiste, peintre et photographe, plus axé sur la forêt. Comment est-ce qu'il est né cet attrait pour la nature ?
Quand j'étais tout jeune, j'habitais à une centaine de mètres des forêts, des ruisseaux, des rivières. Donc en fait, j'avais une prédisposition à m'intéresser à la nature, quoi. En fait, j'ai pas vécu dans un milieu urbain, j'ai vécu en nature depuis mon enfance. Et en fait, c'est au fil du temps, il s'est passé une espèce de mariage, une espèce d'osmose entre ces forêts, ces ruisseaux, ces cascades, qui font que ça faisait partie d'un petit peu de ma culture et de mon élément, quoi. C'est un peu comme une famille, quoi. Voilà.
Ouais, de belles années passées, grandi à la montagne, c'est trop bien ça.
Oui.
Tu n'es pas né artiste, tu as donc dû apprendre. Comment est-ce que tu as appris la peinture ?
En fait, je ne suis pas passé par des circuits officiels, parce que j'ai fait ça par moi-même, en fait. J'ai voulu, étant gamin, j'étais assez subjugué par le... Quand on faisait du dessin en école maternelle, dans les cours préparatoires, quoi, j'étais assez subjugué par le dessin, ça me passionnait.
Mmh.
Et puis, à un moment donné, c'est vrai, quand on est dans les écoles, et dès qu'on monte un peu plus, dès qu'on va au CP, tout ça, la peinture, le dessin, tout ça, on en fait un petit peu moins, on fait plus de maths, plus de français, plus de choses comme ça. Et moi, en fait, ce que je voulais, c'est garder un petit peu ce lien avec la peinture, avec l'image. Et donc, j'ai toujours continué à dessiner, à peindre. Depuis ma tendre enfance. En fait, le déclic entre la photographie, la peinture, ça c'est vers l'âge de 11 ans, quoi.
Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est depuis
que
t'es très jeune.
Un peu de maîtrise, un peu de technique, quoi. Sortir du crayon de couleur pour aller sur des choses un peu plus techniques. Voilà. Donc la peinture et la photographie, c'était un peu plus technique. Donc là, c'est entre 11 et 12 ans, quoi. Voilà.
Un long cheminement de toute une vie, du coup.
Oui. Ouais. C'est un parcours que j'ai jamais quitté, en fait. Hein. Aujourd'hui, c'est quelques décennies en arrière, plus loin, enfin, un peu plus loin, pas en arrière, mais je me dis effectivement que ça a toujours été dans mes préoccupations de continuer à avoir cette écriture-là, parce que je trouvais intéressant, c'est intéressant quand on va à l'école, on apprend à écrire, en fait. On apprend à écrire des mots, hein, des lettres, des chiffres, mais on n'apprend pas à écrire le paysage, on n'apprend pas à écrire... dessiner un rocher, écrire un arbre, écrire... Et pour moi, tout ça, c'est de l'écriture, quoi.
Mmh.
Et donc, on pourrait très bien, effectivement, apprendre à écrire, à écrire notre univers, notre nature, même nos villes, nos villages, un petit peu comme on écrit l'alphabet.
Est-ce que tu as fait des cours d'art ?
Non, justement, je n'ai pas pris de cours d'art. Je me suis perfectionné par moi-même. Alors, j'ai beaucoup visité les musées.
Okay.
Je suis allé voir beaucoup d'expositions. J'ai beaucoup visité les musées, j'ai essayé de comprendre comment les peintres avaient fait pour arriver à ce résultat-là. J'étais un petit peu subjugué, quoi. J'étais émerveillé par ce que je voyais, quoi. Quand on rentre dans un musée, quand on a 12, 13, 14 ans, on est impressionné déjà par les volumes, quoi, par la taille, la dimension du tableau, quoi.
Mmh.
Et on se dit, mais comment ils ont fait pour arriver à ce rendu, pour traduire les traits de visage, les yeux, les lèvres, tout ça c'est impressionne. Je me suis dit, tiens, il faut que je trouve quand même pourquoi et comment on a pu faire ça.
Mm.
Et du coup je suis allé vers pas mal d'ouvrages, d'ouvrages de technique aussi. J'ai beaucoup étudié ce qui se passait dans les musées.
Donc
rester un certain moment devant un tableau, ça permet de se l'approprier, de rentrer aussi dans l'esprit du peintre. Et de comprendre certaines choses qu'on verrait pas si on n'était pas passé par là, quoi.
Ouais.
Voilà.
Apparemment, on apprend beaucoup de par l'observation. J'invite beaucoup de peintres qui allaient dans des musées pour trouver leur propre style.
Effectivement, ça c'est aussi intéressant parce que quand on démarre, que ce soit la peinture ou la photographie, mais plutôt la peinture, on a besoin de références, quoi. On peut pas, devenir trouver sa voie si on n'a pas vu ce qu'on fait les autres peintres, en fait. Hein.
Ouais.
Et tout le monde est passé par là, que ce soit Van Gogh, Picasso, ils sont tous passés par l'étude des autres pour dire ben voilà, moi je m'inspire de ce peintre-là. Mais en même temps, je vais apporter ma touche, je vais apporter ma signature, ma façon de transmettre, de transcrire. Mais je pense qu'on est effectivement, on est tous héritiers des gens qui nous ont précédés. Et dans les musées, ben c'est effectivement les musées, c'est un grand livre, c'est un grand livre ouvert sur le monde des arts qui traverse des siècles, hein, parce que ça part du Moyen Âge, ça va jusqu'au contemporain. Et c'est à la fois un grand livre, mais aussi un grand dictionnaire, parce que ça permet de savoir un petit peu ce qu'on va faire, comment on se situe, qu'est-ce qu'on voudrait faire, voilà. Donc tout ça, ça participe au futur du métier, quoi.
Après cet apprentissage d'observation, tu t'es vite orienté vers la technique ancienne de peinture.
Oui, exactement. Bah, j'étais assez fasciné par la technique. À un moment donné, dans ma carrière d'artiste, il y a une chose qui était importante, c'était de trouver sa technique, en fait, trouver sa voix et trouver sa technique. Parce que sans la technique, ça devient une galère, quoi. C'est-à-dire que si on doit chercher, se lever tous les matins en essayant de redéfinir pourquoi, comment, est-ce qu'on met de l'essence là, est-ce qu'on met plus de solvant là, ou plus de vernis par là, est-ce que ça va changer quelque chose? On peut pas faire ça et en même temps se développer. Donc, il faut que la technique soit bien absorbée. Et moi, j'étais intéressé par les techniques anciennes parce que j'avais, justement, en me baladant, en allant voir des expositions, j'avais vu des choses qui m'avaient impressionné par la finesse, par le traitement, qui était différente de ce qu'on voit aujourd'hui. Et je me suis dit, mais c'est, effectivement, ces gens-là, ils ont eu un métier, ils ont manipulé des techniques, ils sont transmis aussi, parce qu'à l'époque, on se transmettait beaucoup les techniques.
Oui.
Donc effectivement, je suis parti, moi, sur une technique de peinture ancienne, qui me permet de m'affranchir un petit peu du temps, et donc de travailler très rapidement, et d'avoir, des rendus très agréables. En fait, je travaille à ce qu'on appelle la tempéra.
Tu m'enlèves les mots de la bouche.
Voilà. Donc la tempéra, pour expliquer clairement, enfin simplement, il y a la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Bon, peinture à l'huile, c'est clair, c'est avec de l'huile, des vernis, de l'essence, des essences et des vernis. Et des siccatifs, c'est-à-dire des médiums qui permettent à la fois de fluidifier la peinture, mais aussi d'accélérer les temps de séchage des peintures. Ce sont des vernis, quoi. Des résines, ce sont des résines, en fait. La tempéra, c'est de l'œuf, c'est le jaune d'œuf. On utilise le jaune d'œuf, en fait, avec du pigment. Pigment brut, c'est-à-dire qu'en fait, j'utilise pas de tubes du commerce. C'est-à-dire j'achète des pigments, qui sont des pigments broyés, donc ils sont à l'état de poudre, en fait. Ils sont mélangés avec un jaune d'œuf et des huiles cuites et du vernis. Donc c'est un mélange.
Wow.
Alors l'avantage, c'est que j'utilise pas d'essence, j'utilise de l'eau. Parce que le jaune d'œuf, il permet de mélanger les huiles et l'eau. On peut mélanger les deux.
Donc, d'accord.
Donc moi, en fait, je travaille avec de l'eau, du jaune d'œuf, de l'huile et des vernis.
Okay.
Et des additifs, quoi, voilà.
Okay.
Et donc ça me permet d'avoir une peinture ça me permet de travailler extrêmement rapidement. Donc en fait, si je veux superposer une couche sur une autre couche, ça se fait dans la minute qui suit, quoi. Il n'y a pas de difficulté.
Alors, très vite, tu t'es orienté vers un mode d'expression spontané.
Oui, ben, en fait, j'étais parti à une époque, j'étais dans l'huile pure, dans les techniques anciennes de peinture à l'huile. Mais ça me demandait beaucoup trop de temps de préparation. Et en fait, je recherchais en même temps avoir une spontanéité, mais avec le rendu, le meilleur possible qu'on trouve avec l'huile. Et donc cette technique-là, elle me permet d'être très spontané. Alors je pense que les gens, on retrouve ça aujourd'hui un peu dans l'acrylique. L'acrylique, c'est venu en contrepartie de la peinture à l'huile qui était un peu laborieuse, qui était longue, parce qu'il faut attendre, les temps de séchage sont assez longs. Alors que l'acrylique, justement, ça a permis, dans les années 60 à peu près, ça a permis de révolutionner un petit peu toute cette peinture ancienne, qui était un petit peu lourde, compliquée à manipuler, et donc en pressant sur un tube, on avait, en mettant un peu d'eau ou un peu de médium dedans, on arrivait à tout de suite avoir la peinture. Alors avec la tempéra, en fait, bah j'utilise, je suis entre les deux, quoi. Je suis entre l'acrylique et l'huile, mais ça me permet de travailler extrêmement rapidement et puis en même temps j'ai besoin de cette j'ai besoin de pouvoir travailler rapidement sans être obligé d'attendre trois jours que ça sèche. Voilà.
Un long processus.
Oui, tout à fait.
Eh bien, pour rentrer un petit peu plus dans ton monde, on va passer le premier son que tu nous as concocté. C'est « I Want You » de Bob Dylan. Take a size, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Vincent, merci pour ce partage. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce son ?
Ah ben ça, c'est des choses qui m'ont tenu dans ma jeunesse. Ouais, Bob Dylan, alors on le voit en ce moment parce qu'il est sur les écrans.
Ok, alors, ouais.
Il y a un très beau film qui lui est consacré. Je vous recommande d'aller le voir, c'est très très chouette.
Ouais.
Bah surtout pour ceux qui ont connu cette époque-là. Moi, j'ai connu ça.
Ouais.
Et puis j'ai commencé à faire de la musique avec ce genre de folk.
Donc tu fais en plus de la musique.
Voilà.
Ok, d'accord.
Donc, je suis guitariste depuis le même temps, effectivement.
Okay.
Et Bob Dylan, enfin toutes ces périodes folk-là, c'était pour moi une révélation, quoi.
Donc, ok, d'accord.
Donc c'est pour ça que ça me...
Ouais.
À chaque fois, ça me replonge un peu dans ces années-là, qui étaient des années assez super.
Alors, pour reparler de ton art, plus précisément de tes peintures,
oui.
Tu pratiques donc la tempera. J'allais dire, est-ce que tu peux aiguiller nos auditeurs et nous expliquer ? Tu l'as déjà fait ?
Il y a un exemple tout simple, en fait, pour bien expliquer ce que c'est la mayonnaise. Quand on fait une mayonnaise, on prend un jaune d'œuf, on met de l'huile pour fermenter la mayonnaise en battant, enfin en la remuant. Et si on veut qu'elle soit plus légère, la mayonnaise, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute de l'eau.
De l'eau, ok,
voilà.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
C'est le même principe. Donc, c'est une recette assez simple.
Est-ce que ces techniques-là t'ont tout de suite attiré ou est-ce que t'as commencé avec autre chose ?
J'ai un peu tout essayé, quoi.
Okay.
Après, à un moment donné, il faut trouver sa croisière, son rythme de croisière. Et puis, en fait, et puis comme je disais, il faut trouver son écriture. Il faut trouver avec quoi on travaille. on va pas remettre tous les jours en question sa technique, on va pas tous les jours essayer de faire des prouesses avec des choses qu'on connaît pas. Donc à un moment donné, quand ça fonctionne bien, ben on garde. Et puis c'est une recette, quoi, voilà. Et je pense qu'effectivement, quand on a... Pareil pour un cuisinier, ben on peut innover, bien sûr, mais le cuisinier qui a l'habitude de faire un plat, que tout le monde dit c'est vachement bien, ben il va pas changer du jour au lendemain sa recette, parce que... Ouais. Il va pas prendre de risque de se louper, de faire autre chose, quoi, et qui serait pas convenable. Et en peinture, c'est un peu pareil, quoi. Dès qu'on a trouvé sa voie, sa méthode, bah, finalement, ça permet de se libérer de la technique pour aller dans la création pure.
Est-ce que tu te souviens de ton premier coup de pinceau?
Alors, la première toile que j'ai faite, c'était pour un de mes cousins. J'avais fait une toile pour son mariage. Et je devais avoir 12-13 ans.
Ok, d'accord.
Ouais. Alors à l'époque, c'était sur un drap, avec des tubes de gouache. Enfin, c'était assez...
Ok, ouais.
C'était assez éphémère comme truc, hein, mais assez artisanal, en fait. Mais ça, c'est ma première toile. C'était une espèce de paysage d'automne. J'avais tendu un drap sur un châssis en bois, voilà, quoi.
Ça a toujours été le paysage, du coup.
Non, ça a été beaucoup de portraits. Moi, j'ai fait beaucoup de portraits.
Ok, d'accord.
Ouais. Et j'étais un petit peu, j'avais du mal avec le paysage. Et puis un jour, j'ai dit, faut quand même que je me bouge un peu, quoi.
Ouais.
Parce que le portrait, bon, au bout de 8-9 ans, faire des portraits, 8-9 ans, à un moment donné, il y a toujours une fatigue qui arrive, quoi. Hein.
Ouais.
On a envie de se renouveler. Donc, voilà. Donc le paysage, il est arrivé il y a une quinzaine d'années.
Okay.
Et je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer. Et puis voilà. Puis j'ai, il fallait que je sorte un petit peu de mes gonds, quoi. Mais finalement, ça m'a bien réussi, quoi. C'est bien.
Ouais, apparemment, t'as trouvé ta voie.
Je retournerai un peu au portrait. J'ai envie de retourner
au
personnage. Okay. Ouais.
Est-ce que la tempéra, c'est une technique de peinture facile à manier?
Oui, c'est assez simple, hein, en fait. C'est pas une peinture très coûteuse. C'est-à-dire vous achetez des œufs, vous prenez des jaunes d'œufs. Bah, vous pouvez mettre simplement jaune d'œuf et de l'eau. Il faut acheter des pigments en poudre. Bon, vous trouverez des pigments en poudre. On en trouve dans le commerce, hein, je veux dire, dans les maisons de beaux-arts. Ou sinon, moi, j'achète... moi, mes pigments, j'en ai trouvé... les principaux, c'est dans les... C'est sur des terres du Roussillon. Donc, dans le Roussillon, il y a... À Apt, d'ailleurs, il y a 2-3 maisons qui... Là-bas, ils fabriquaient beaucoup de pigments parce qu'en fait, ils fournissaient du pigment pour le bâtiment, donc pour peindre les maisons, en fait. Et puis, il y a les carrières d'ocre là-bas qui sont quand même remarquables, qui sont très connues. Et c'est à partir de là que se sont montés ces établissements qui vendent des pigments.
Okay.
Et moi, j'achète toujours là-bas, ouais, je suis toujours apte, j'ai toujours deux, trois boutiques qui vendent des beaux pigments maintenant, et voilà, ça marche très très bien. Donc c'est de la poudre, c'est moins cher que la peinture en tube, et donc c'est des peintures assez économiques quand même, ouais, tout à fait.
Okay. Alors, t'es très attiré par la forêt et l'hiver, qui est ta saison préférée.
Oui.
Qu'est-ce que tu aimes tant dans cette saison ?
Ben moi, ce que j'aime bien dans l'hiver, c'est l'atmosphère de l'hiver, en fait. J'aime bien... Moi, je suis assez du froid. J'aime pas trop le...
Ah ouais, ok.
J'allais pas vivre au Sahara, mais j'irais bien vivre en Antarctique, en Arctique, voilà. Et non, j'aime bien le froid, j'aime bien l'hiver. Et l'hiver, j'aime bien parce que c'est les lumières, en fait. C'est en peinture, en photographie, c'est le dépouillement, c'est la lumière, c'est... des fois, il y a juste un arbre qui dépasse, un paysage tout blanc, immaculé, il y a quelques rayons de lumière sur la neige, tout ça, je trouve ça, c'est assez fabuleux, quoi. On n'est pas perturbé par plein de choses, par des feuilles, par des branches, à la forêt aussi, mais la forêt en hiver, c'est magnifique, hein, c'est un vrai régal, quoi. Quand les lumières rentrent dans les sous-bois, il y a de la neige sur les arbres, c'est absolument prodigieux, quoi.
Ouais, t'as un vrai maniement dans tes œuvres, que ce soit pour la photo ou pour les peintures de la lumière.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu as besoin de te retrouver dehors, devant le sujet que tu veux peindre, ou est-ce que tes toiles naissent dans ton esprit directement ?
Alors la photo, bien sûr, hein, la photo, je suis sans arrêt en déplacement dans la nature. Par contre, pour la peinture, non, je veux. Ça reste un travail de création pure.
Okay.
C'est un travail qui est orienté sur les souvenirs, en fait. J'ai énormément de souvenirs de...
Ouais.
Et le fait de fréquenter énormément les massifs, les montagnes, c'est un peu comme si on fréquentait des gens, enfin, des personnes, en fait. Donc, si on demande à quelqu'un, tiens, dessine un visage, voilà, il sait bien qu'il y a deux yeux, un nez, une bouche, un cou, un front, une chevelure, les oreilles. Et là, c'est un peu pareil. Il y a une espèce de grammaire dans le paysage qui fait que, finalement, j'ai intégré ça au fur et à mesure de mes sorties, et que c'est pas compliqué pour moi aujourd'hui de dire, tiens, je vais faire une montagne à telle heure, avec tel type de neige, tel type de paysage, tel type de lumière. J'ai pas besoin du modèle, quoi. Le modèle, dans la limite, ça m'intéresse pas, parce que je l'ai en la photo, je fais de la photo par ailleurs, et j'ai pas envie de je veux pas répliquer mes photos.
Okay.
Donc, je reste dans un domaine de création pure.
Ces traits, comme tu dis, qui sont spontanés sur tes toiles, ils m'ont tout de suite fait penser au style de Van Gogh. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire ?
Ah bah Van Gogh, oui, je pense qu'il a... Alors je dirais pas qu'il m'inspire, parce que Van Gogh, il a son écriture, et en fait, moi je suis parti sur d'autres peintres au départ, mais Van Gogh, oui, bah c'est un monument, effectivement, on peut pas passer à côté. Et on peut pas passer à côté, comme je disais tout à l'heure, quand on rentre dans un musée, il y a des gens à côté desquels, en face desquels, on est obligé de s'arrêter.
Ouais.
Van Gogh est obligé de s'arrêter parce que effectivement, c'est quelqu'un qui à un moment donné détonne dans le paysage à son époque. Hein.
Ouais.
À son époque, d'ailleurs, bon, c'est
toujours. J'ai l'impression.
Les peintures qui sont pas comprises à l'époque. On se dit que c'est trop coloré, c'est trop. Il y a trop de traits. Enfin, notamment les impressionnistes, hein, ils ont tous eu ces remarques-là. Quoi, ils étaient refusés dans les salons. Mais non, Van Gogh, oui, c'est quelqu'un qui est présent, comme Gauguin aussi, donc avec ses touches de couleurs, ses aplats. Puis Van Gogh, c'est aussi une espèce de légèreté de sublimation. Quand on voit les ciels de Van Gogh, avec tous ces effets de tournoiement, là, qui sont absolument prodigieux, quoi. Donc, c'est vrai que... Et quand on est en nature, on le ressent, ça. On le ressent bien, par exemple, quand on est dans un lever de soleil. Bah, il y a toute une espèce de magie qui se forme, et autour du soleil, autour de toutes les lumières, il y a ces espèces de mouvements qu'on arriverait presque à distinguer si on s'arrête assez longtemps sur le sujet.
Ouais.
Quoi.
Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as des artistes qui t'ont bercé ou qui t'inspirent?
Bon, j'étais assez intéressé par les peintres de la lumière, enfin, qui peignaient la lumière. Alors, notamment, il y en a un qui est connu en Lorraine, c'est Georges de la Tour.
Ouais.
Donc, Georges de la Tour, ce qui m'avait intéressé, c'est, qu'est-ce qu'on fait avec une bougie, quoi. Avec une bougie, on arrive à peindre l'obscur, quoi, l'obscurité, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose qui est remarquable, parce qu'on est entre la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour, quoi, en même temps, mais qui sont dilués au travers, enfin, dans le rayonnement de la flamme d'une bougie, quoi.
Ouais.
C'est assez exceptionnel. Et donc, c'est pareil, il y a une belle œuvre de la Tour au musée, à Remiremont.
C'est vrai.
Oui, qu'il faut.
J'y suis encore jamais allé. J'habite à Remiremont.
À la sacoche, oui, c'est une peinture très intéressante. Et puis, je me suis intéressé à Vermeer de Delft aussi. Vermeer, c'est un peintre hollandais qui peignait beaucoup de personnages de femmes, en fait.
OK.
Voilà. Donc, dans des atmosphères assez cloisonnées, chez elles, dans des intérieurs un peu bourgeois, mais extrêmement sobres.
OK.
Donc, avec des lumières latérales, donc des lumières qui venaient par les fenêtres sur le côté. Et vraiment, pareil, des choses absolument remarquables au niveau des lumières, quoi. Donc, c'est surtout la lumière qui m'intéressait dans le travail des peintres.
Eh bien, écoute, tout de suite, on se met Burner to Beer. Alors, l'accent anglais est toujours bien évidemment présent. De Jimmy Lafave, c'est tout de suite sur Radio Gameoise. Baby, there's a reason to be sad. Oh, there's a reason to throw it away. I find it so hard to relate these days to anything. Oh, or anyone at all. Everything that matters, everything that ever will. On a distant shoreline way across the western hills. Oh, I can't seem to get there, you know. See, my life's been put on. The hardest burden to bear. Look in the mirror, I see the lines in my face.
ashamed of living in the past. There's enough regret that'll last. And I can't deny what I understand. If you live your life like a one-night stand, you wind up alone and lost, oh, and afraid, with nothing to say. I guess it doesn't matter anyway. Seeking for yourself and not that long. I think I've been fooling myself my whole life long. Thinking everything matters. I watch you leave without a care. Don't you know, don't you know, that's the hardest button to bear. Yeah, that's the hardest button to bear. Oh, 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 the hardest button to bear. Baby, the hardest button to
Vincent Gannet, toujours avec moi derrière le micro. Est-ce que la musique, c'est quelque chose qui t'aide à t'inspirer?
Ah oui, moi je travaille toujours en musique en fait. J'ai pas mal de, j'ai un grand registre. Hein. Ça va du classique, ça peut être du, ça peut être du Bach.
Ok, voilà, ouais.
Donc avec des choses assez extrêmement lyriques. J'aime bien les chanteuses lyriques aussi. J'adore.
Ok, ouais. Ouais. J'adore. Très inspirant.
Et puis ça peut être aussi du blues. Ça peut être aussi de la country, du rock, quand j'ai besoin de choses un peu toniques, quoi, voilà.
Ouais.
Quand j'ai besoin de trouver dans ma, dans mon expression des choses un peu fortes.
Okay.
À ce moment-là, je pars plutôt vers du blues, du rock et des choses un peu plus guitare électrique, quoi.
En off, on discutait de l'inspiration, trouver son propre style.
Oui.
Donc, tu nous disais qu'on vivait dans un monde, effectivement...
submergé d'images, quoi.
Exactement.
Non, on est dans un monde qui est effectivement, on est submergé par... d'images, de représentations, enfin des images à la fois de réalité et de représentation du réel. Alors, on a plus de représentations du réel que de réalité, en fait. Hein. Aujourd'hui, si on est dans un mode urbain, ben on va avoir de l'affiche, on va avoir de la photographie, on va avoir de la devanture, du magasin, juste comme ça. Donc, on est dans des systèmes un peu fabriqués, quoi. On est plus que dans... On n'est pas dans une forêt, quoi, avec un arbre, quelques feuilles ou quelques brins d'herbe. Là, on est dans un monde extrêmement représenté.
Mmh.
Et donc, en fait, on a besoin de se construire aussi. Se construire par rapport à ce monde-là, ça demande des efforts et ça demande un gros travail. Parce qu'effectivement, on a sans arrêt la tentation de vouloir ressembler à ou faire comme. Voilà, alors qu'en fait, c'est pour ça que moi, la nature, ça m'a permis aussi d'avoir un professeur totalement neutre et puis voilà et qui n'était pas là pour me dire bah fais comme ci fais comme ça. C'était là devant moi et j'apprends et j'en fais mon affaire quoi, mon travail quoi.
Quelque chose qui juste t'émerveille dans la vie de tous les jours ne suffirait qu'à t'inspirer, auditrice, auditeur. N'ayons pas peur d'être devant notre toile blanche. On vient de parler de tes peintures maintenant. Parlons de tes photographies. Avec quel matériel est-ce que tu as commencé?
Quand j'ai commencé, on n'était pas dans le numérique. Le numérique n'existait pas.
T'as commencé avec l'argentique.
Donc l'argentique, voilà. Magique. Donc l'argentique, pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est de la pellicule photo,
ouais.
Des bains de développement, la chambre noire, des révélateurs, des fixateurs, du papier photo. C'est une petite magie, mais
ouais.
Bon, assez simple, hein, c'est pas compliqué, il suffit d'avoir un peu de matériel de développement. Mais c'était effectivement une période assez intéressante pour moi, parce que ça m'a permis de me former un petit peu à la photographie, pas celle qu'on connaît aujourd'hui, mais... À la photographie, on prenait une photo. D'abord, il fallait dire une chose, c'est que bon, ça coûtait cher. Ouais, faire des, on faisait vrai. Pas, on fait pas de la photo. Il y avait pas d'iPhone, pas de choses comme ça.
Ouais.
Donc on faisait de la photographie avec un appareil argentique. On avait des séquences, des vues de des pellicules de 12 ou de 24 pots.
Ah ouais.
Donc ça coûtait un peu d'argent. Aujourd'hui, on fait des photos sans que ça coûte d'argent.
Ouais, c'est clair. Là.
Donc c'est pour ça qu'on peut en faire des milliers tous les jours. À l'époque, ça coûtait un peu cher, donc on faisait un peu attention à ce qu'on faisait.
Ok, ouais.
Parce qu'on voulait pas gâcher une pellicule. Donc des fois, la pellicule de 12 poses, ben ça durait une semaine, hein, ou 15
okay.
jours.
Ok, ah ouais, oh, oui, ok.
Oui, tout à fait.
Donc, l'économie.
Par contre, c'était intéressant parce que justement, elles avaient plus de valeur, quoi, entre guillemets.
Ouais, bah ouais, ouais, bien
plus
sûr.
De valeur. Je dis pas que ça en a pas aujourd'hui. C'est pas ce que je dis, hein. Mais disons que la photo qu'on faisait dans la journée. Si on faisait deux photos dans la journée, parce qu'on voulait garder les autres photos ouais. pour les jours suivants, ces deux photos-là avaient une grande valeur parce que effectivement, d'abord on faisait attention à ce qu'on allait faire,
ouais.
et puis voilà quoi, c'est différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ouais. Comme je dis, bon aujourd'hui, on n'est plus dans la même logique, ça a complètement changé,
ouais.
mais le fond reste un petit peu le même. Aujourd'hui, je suis pas obligé de faire 300 photos pour en avoir une bonne. Je vais pas
ouais.
en faire que 10.
Ouais. Pour
trouver une bonne que je fais aujourd'hui avec du numérique, hein.
Voilà. Donc aujourd'hui, te passer à l'appareil numérique.
Voilà. Aujourd'hui, maintenant, j'ai encore de l'argentique, hein. J'ai encore des procédés argentiques, mais
okay.
Je suis principalement numérique. Donc, comme la plupart des gens. Bon, par contre, avec des boîtiers qui sont un peu plus sophistiqués, avec des objectifs, des longues focales, ouais. des courtes focales. Alors, ce qui m'a intéressé, moi, dans le numérique, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi le tirage de mes photos. Parce qu'en fait, je m'occupe moi-même du tirage de mes photos. Donc voilà, donc j'ai passé pas mal de temps et je mets un soin particulier à faire mes tirages. Parce que justement, comme j'ai connu l'argentique, je
ouais,
voulais
bien
pas
sûr.
Dire bien tout d'un coup, ça va devenir, j'avais fait des photos sympas en argentique et je voulais pas que les photos numériques deviennent de la soupe, entre guillemets. Je voulais que ça reste quand même au niveau que j'avais connu. Donc par ouais. contre aujourd'hui quoi, ça a bien évolué et les résultats sont plutôt sympathiques quoi. On a des beaux papiers, on a des imprimantes quand même qui sont assez sophistiquées
ouais.
comme les appareils. Donc non, aujourd'hui ça fonctionne bien. Le process est complètement différent. En fait, le résultat est celui qu'on veut donner, ben il est possible hein, mais que ce soit en argentique ou en numérique.
Bien sûr. Un photographe pour moi se doit d'avoir un regard différent. Plus attentif sur notre monde. Alors toi en particulier, comme t'as connu l'argentique encore plus, comment est-ce que tu vois notre monde ?
Ouh là là. Alors, en ce moment, c'est pas la bonne question. Hein. Non, si, non, c'est pas la bonne question. Non, ça dépend de quel point de vue on le considère. Quoi.
Ouais.
C'est d'un point de vue politique aujourd'hui. C'est quand même assez compliqué.
Ouh là là, il y en a des trucs à dire. Hein. Ouh là là.
Dans ces choses-là, moi je vois aussi un monde. Alors il y a un monde qui est effectivement extrêmement bouleversé, mais je vois aussi j'essaie de garder les bonnes initiatives. Quoi. Donc je vois qu'effectivement en matière de création, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers la création, qui essayent de faire des choses. Il y a de plus en plus de propositions. Quand on prend ne serait-ce que des comptes Instagram, des gens qui font des photos, on voit que d'un coup il y a des gens qui se mettent à vouloir faire du beau en fait entre guillemets. Donc je pense que moi je garde surtout cette image-là, c'est de dire que même si le monde il est compliqué, des fois c'est atroce, mais le beau est toujours possible.
Ouais, bien sûr.
Donc, voilà, on a toujours
ouais.
cette possibilité. Et la photographie, elle permet ça aussi. Comme la peinture, elle permet, elle me permet de sublimer les choses, de dire, voilà, j'étais là, ou j'ai peint ce paysage-là, et ce que je veux donner, c'est simplement une version de la beauté du monde, quoi. C'est
ouais.
pas, si ça peut gommer, toutes les imperfections et toutes les cruautés de qu'on vit actuellement, c'est toujours un petit plus.
Un petit plus, ouais.
Qui, mis bout à bout avec tout le monde, font que, effectivement, on peut regarder les choses un peu plus positivement. Il faut le faire, de toute façon, parce qu'on n'a pas le choix.
Que ce soit dans tes peintures ou dans la photographie, t'as un jeu de lumière qui est vraiment, allez regarder son site internet, je vous conseille. Tu joues avec la lumière et la brume dans tes photos.
Je sais pas si je joue avec, parce qu'ils sont là. Hein.
Oui,
je joue avec eux parce qu'ils sont en fait. Ça vient aussi de mes déplacements parce que ce sont des déplacements qui se font soit assez tôt le matin, soit tard le soir. Donc dans des ambiances qui sont quand même un peu confidentielles.
Ouais.
Où en général il n'y a pas grand monde en montagne. Et de plus en plus maintenant, quand même. Hein, mais...
Oui, ouais, effectivement.
À une époque, je me retrouvais bien seul quand je montais sur les crêtes, pour parler des Vosges, même dans d'autres montagnes. Mais effectivement, c'est des moments, moi, qui m'intéressent parce que c'est des moments de lumière, quoi. C'est des moments où la lumière est totalement différente de ce qu'on peut trouver en journée. Et en fait, les choses, j'aime à dire, c'est que j'aime bien de voir que les choses, quand on est dans un lever de soleil, par exemple, la lumière arrive à traverser même des choses qui sont opaques. Ça arrive à traverser. Si on prend des feuilles d'arbre, j'ai des photos où j'ai le soleil dans la feuille d'arbre, et on voit les veines de la feuille, on voit tout ça. Donc on voit quelque part des choses totalement différentes. Et effectivement, la lumière, c'est une captation qui est extrêmement importante dans ma photographie.
Une belle atmosphère presque magique que t'apportes à tes photos.
Dans le massif, vous constatez, ceux qui ont été en photographie dernièrement, vous avez vu, il y a des brumes absolument superbes, magnifiques. C'est dommage pour l'Alsace parce qu'ils sont dans cette mer de nuages, mais pour nous, du côté vosgien, on a eu droit à des spectacles absolument fabuleux. Ouais. Ça vaut le coup de se lever le matin ou de terminer tard le soir pour aller voir ce spectacle-là qui est gratuit aussi, qui coûte rien.
C'est clair.
Juste le fait de marcher et de faire quelques centaines de mètres sur les roues.
T'as aussi un jeu d'arrière-plan flou, premier plan net et inversement. Ouais. C'est vrai que, là, par contre, on peut parler de jeu avec ça.
Oui, parce qu'en fait, ça, c'est des choses assez anciennes en photographie. C'est le fait d'utiliser des objectifs à grande ouverture. Et puis de s'approprier, par exemple, le premier plan. Donc, si on s'approprie un premier plan qui est net, par exemple, ça peut être un arbre. Derrière, j'ai pas envie que l'arbre il soit perturbé par toute une partie du paysage et qu'en fait, l'œil, il aille se perdre dans le fond de la montagne.
C'est simple.
Donc, c'est pour ça qu'on a ces successions de flou, de net. Et c'est un petit peu quand on met des lunettes et qu'effectivement... elles sont adaptées à notre vue. Hein. Donc, soit c'est pour lire un bouquin, soit c'est pour voir de loin, pour conduire. Bon, voilà. Et ça, si je mets mes lunettes pour conduire, peut-être que mon cadran, il sera peut-être pas net, forcément. Enfin, je veux dire. Sauf maintenant, avec les progrès, c'est différent. Mais c'est intéressant, justement, parce que c'est une focalisation. Dans la photographie, c'est intéressant de chercher quel élément, quand on fait une photographie, quel élément va donner un sens à la photographie. Va tirer notre regard, en fait, va nous faire sortir un petit peu du cadre. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui donne du sens pour toi dans tes photographies ?
Oh, il y a plein de choses. Ce qui donne du sens, c'est la façon aussi d'observer la nature. C'est la façon de la capturer. C'est une capture d'image, en fait. Captation d'image. Et ce qui fait sens, là, c'est de voir des choses que j'ai vues, que peut-être mon voisin n'aura pas vues.
L'instant présent.
Voilà, c'est le moment présent. Ouais. Moi, ma photographie, elle se fait dans l'instantané, en fait. C'est en marchant. Et en marchant, il y a des choses qui, tout d'un coup, hop, vont m'absorber, me dire, mais là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et donc, c'est un petit peu ça que je cherche, c'est ça que je transcris dans ma photographie.
Alors, du coup, t'as sorti des livres. T'en as sorti deux, il me semble.
J'ai fait trois livres. Okay. J'ai trois bouquins, j'ai fait des petits fascicules, des petits livrets aussi. J'ai fait des posters, j'ai fait des cartes.
Et donc, du coup, dans ces livres, tu as donc partagé tes photos accompagnées de textes que tu écris de toi-même.
Oui. En fait, j'écris les textes à partir des photos, à partir souvent des atmosphères que ces endroits m'ont évoquées. Pas la photo, mais la mémoire du lieu m'évoque une façon d'être à un moment donné, une façon de, un sentiment qui m'a traversé au moment où je passais dans ces paysages-là. Et c'est ce que j'essaye de remettre en texte, en fait. Voilà. Mais c'est pas mon principal métier, mais je trouve que c'est sympa de mettre quelques mots aussi sur des images, de pas simplement avoir l'image, mais de pouvoir dire, une émotion. Ouais. L'image, c'est une émotion, mais le texte, c'est aussi une autre forme d'émotion qui peut se marier de façon très, très, très intelligente avec la photographie.
Et avant de conclure cette émission, on va terminer avec Rosanne Cash. C'est What We Really Want. À tout de suite sur Radio Gemozo.
Something we've never done. Threw the best parts of life away on street talk, strangers, and drugs. And what we really want is love. What we really need
night wants to talk to your mirror man. And what they really want is love. What they really need is love. Ships in the night, the water's deep in between. The air is freezing and we can't find the light, so we sail off into our dreams. And what we really dream is love. What we really need is love. Someone else's world. Sat and looked out my window last night. Knew that things had changed with this girl. Cause what I really found is love. And what I really feel is love. What we really want is love. And what we really need.
Avec nous aujourd'hui derrière le micro, c'était Vincent Ganet, artiste, photographe, auteur et peintre. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ?
D'un point de vue facilité, ça va être sur les réseaux, bien sûr. Donc un compte Facebook et un compte Instagram. Donc il y a le compte Facebook, c'est plutôt le journal, parce qu'il y a, il y a le compte pro Facebook.
Ok, d'accord.
Mais là, je publie pas trop, et plutôt je suis journal, parce qu'en fait, dans le journal, c'est mes actualités de création, donc que ce soit en photographie ou en peinture. Donc là, il y a pas mal de choses quand même, il y a de quoi suivre un peu le parcours, quoi, parce que je publie quand même régulièrement. Puis compte Instagram, voilà, donc on me trouve facilement, il n'y a pas de difficulté. Et puis après, le site internet, bien sûr.
À quel nom ?
C'est tout simple, c'est vincentganet.com.
Ok, d'accord. En ce moment, tu exposes à deux endroits différents en même temps, au musée Friri.
J'ai deux expositions dans les deux musées de Remiremont. Donc au musée Charles de Bruyère, ce sont des photographies, des tirages photographiques. Donc là, il y a 24 photographies qui sont exposées au musée Charles de Bruyère, et un peu plus loin, au musée Friri. Donc là, ce sont les peintures, dans cette belle salle là, du musée Friri, sympathique salle, et là, ce sont des peintures à tempéra, donc sur toile, et donc 13 ou 14 peintures qui vont être... la photographie, c'est jusqu'au 2 mars, donc le dernier jour, c'est le 2 mars, et par contre, la peinture, c'est jusqu'au 18 mai, donc c'est un peu plus long.
Est-ce que tu vends tes œuvres ?
Oui, je vends mes œuvres. Pas tous les jours, hein.
Du coup, sur ton site internet, on peut se les procurer.
Oui, on peut se les procurer, sauf qu'il n'y a pas de tarif sur mes sites. Les gens m'appellent.
Ok, d'accord.
Contact, voilà, il n'y a pas. Okay. J'ai pas de vitrine.
Ouais.
Okay. J'ai pas de vitrine avec les prix, voilà. Donc c'est. Ça se fait comme ça dans les expos, quoi.
Est-ce que tu as de nouveaux projets pour l'avenir ?
Ben, j'ai toujours à peu près 4-5 expositions à l'année. J'ai une prochaine exposition qui sera à Froville, au Festival de musique baroque de Froville, donc dans un endroit, dans une église romane. Donc c'est un très très beau lieu, en même temps c'est associé à la musique, une musique que j'aime bien, musique baroque, donc voilà.
Génial.
Donc ça va être une belle occasion de présenter des nouveautés. Et sinon, non, bah j'ai ici et là, toujours à peu près 4-5 expositions à l'année. Quoi.
Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ?
Que ça puisse continuer comme ça le plus longtemps possible. Hein. Après, puis peut-être aussi de vous surprendre ou de surprendre mon public avec des choses un peu nouvelles. Quoi.
Un petit mot pour la fin ?
Bah, j'étais bien content de venir, de ce petit entretien qui était sympathique.
Ouais, super.
Parce que c'est vrai, quand on est sur les réseaux sociaux, bah, on se voit avec du texte et des petits commentaires. Mais alors là, c'est quand même plus sympa de pouvoir échanger. Et donc, merci beaucoup à cette invitation.
Bah, merci à toi, Vincent, d'avoir partagé avec nous ta passion. Eh bien, j'espère, auditrice, auditeur, que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, vous pourrez bientôt la réécouter sur notre site internet en podcast. Sinon, rendez-vous demain à 18h pour la rediffusion. Entre-temps, prenez bien soin de vous et à bientôt.